Hello.
C'est Romain et Sébastien pour Imaginaire, hein, ensemble yes. jusqu'à 22h. Bon, on peut dire que c'est un peu notre première émission de notre, je les compte plus, 15e saison, je crois.
Ouais, rentrée estivale.
Carrément, et on a été au cinéma.
Bah oui, pas mal, comme ça cartonne en ce moment la fréquentation dans les salles.
C'est vrai ?
Oui.
C'est bien. Ouais. Beaucoup de films pour frissonner et pour avoir un petit peu, voilà... Un peu
pour
de...
le fameux Evil Dead Burn qu'on a vu.
Ouais, on va en parler en début d'émission. Et puis après, tu as été au cinéma sur Amazon Prime.
Mais j'avais vu le film. J'ai eu la chance de le voir au Kiné, au Police de Bruxelles.
Tu avais été
Master
en Belgique juste pour ça.
Of Universe, entre autres.
Et donc, deuxième vision de ce film, donc directement sorti en streaming.
Sur Amazon Prime. Et j'ai un ami. Donc Gianni Luca Roberto, le fameux Aura qui avait été invité d'Imaginaire il y a 2 ans de cela, qui adore le Musclore
ouais.
et qui a vu le film et qui va nous dire combien ce film a créé la surprise sur Amazon au point de devenir le carton de l'été.
Et puis puisqu'on aura Aura au téléphone, et ben on parlera de ses nouveautés aussi.
Voilà, de ses nouveautés, dont des jeux de cartes Romain.
Donc, il s'était lancé dans une série de livres-jeux
voilà,
jeunesse.
Voilà, de livres-jeux jeunesse qu'il avait présenté au salon. Il y en a 4 pour le moment, mais c'est une grande fresque, un peu comme Loup solitaire, avec pas mal de rebondissements. Mais il a voulu étendre son univers. Il y a tout un merchandising, dont les jeux de cartes. Et je pense que toi, qui adores les jeux, notamment les jeux de cartes, tu auras des questions dessus.
Et on écoutera aussi des musiques qu'il a fait pour ses jeux et pour ses livres, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses.
Ouais, voilà, mais
c'est jeune homme.
C'est un multitâche.
Mais on commence l'émission donc avec le dernier titre qu'on entend, enfin dans Evil Dead Burn, donc morceau avec Chilla et Double Danger. Je sais pas comment on prononce ça, la française ou l'américaine, mais voilà. Et puis on parle du film dans quelques minutes sur Radio G.
Car il est tout noir, tout part en fumée. C'est pas des cendres de patata. J'suis seul dans le couloir, la mes fissurée. Comme le cristal de Baccarat. J'ai des angoisses dans l'abdomen, mine des gaines de soldats. J'découpe les fils de la marionnette avec un petit santoco. J'ai dû faire un effort pour ne pas que la peine me possède comme un démon. J'étais là comme un ange au milieu du décor, comme une fleur sur le béton. J'étais plaid dans le dos, on se prend dans les bras, ça me laisse trop de lésions. Je t'aimais, mais l'amour suffit pas à t'aimer au-delà de ma raison. Raga, qu'est-ce qu'elle est moche. J'suis plus naïf, j'suis on top. T'attendais quoi que j'te chope. J'étais dans le fond, let's get it up. Let's get it up, let's get it up. J'suis plus naïf, j'suis on top. T'attendais quoi que j'te chope. J'étais dans le fond, let's get it up. Let's get it up. On s'est arraché nos espoirs comme on arrache des pétales. Des reproches un peu insidieux, j'ai perdu confiance en moi. J'voulais rouler vers les étoiles, mais j'ai perdu les pétales. La nuit n'est plus tombée, la nuit n'est plus tombée. Tu pensais que j'pouvais voler. Je t'entends lever toutes mes émotions. Puis un jour je me suis relevée. J'ai enfin pu recoudre les incisions. Tu pensais que je pouvais voler. Mettre mes émotions. Puis un jour je me suis relevée. Les incisions. Les enfers sous nos pieds, j'ai du mal à me dire qu'on ira au paradis. Coup de foudre quand je rentre dans la cabine. T'as le feu dans les yeux, notre histoire dans les veines. Tu diras que c'est maladif. Dans l'oreille j'ai l'écho des je t'aime qui m'apaise comme un ange qui m'assassine. Putain j'ai failli me perdre dans les abysses à cause d'un enculé qui me faisait du tort. Et aucun monde où je continuerai à me traire. J'allais tout perdre mais j'ai retrouvé la fin. J'ai demandé de l'aide, j'avançais, j'ai reculé. Comme une enfant qui court, qui s'est pris la porte. Plus je côtoie mon reflet, plus je crains de mourir. Sans me poser la question à qui la faute. On s'est arraché nos espoirs comme on arrache des pétales. Des reproches un peu insidieux, j'ai perdu confiance en moi. Je voulais rouler vers les étoiles, mais j'ai perdu les pétales. La nuit n'est plus tombée, la nuit n'est plus tombée. Tu pensais que je pouvais voler. Je t'entends lever toutes mes émotions. Depuis un jour, je me suis relevée. J'ai enfin pu recoudre les incisions. Tu pensais que je pouvais.
Yeah.
Attila et Double Danger, le morceau qui clôt cette Evil Dead Burn qu'on a vu ensemble avec Romald aussi, mais il sera pas là pour en parler ce soir. Lui, il a trouvé original, ça en parle un peu dans cette chanson, le fait d'intégrer, on va dire, le thème de la masculinité toxique dans ce film d'horreur. Film d'horreur français, donc, de Sébastien Vanitschek. Je vois qu'au Québec, ça s'appelle l'opéra de la terreur, l'embrasement. L'embrasement. Je ne sais pas quel est le titre en Suisse, on demandera tout à l'heure. Tiens. Ah ouais. Toi, Sébastien, tu es moins emballé que moi.
Oui, moi, je suis moins emballé. Je suis pas fan de ces films d'horreur qui passent des messages, mais vraiment qui les passent. Mais je sais pas comment le dire. Et c'est vraiment.
C'est pas dans la finesse.
Ouais, voilà, c'est pas dans la finesse. Je cherchais l'image.
Au chausse-pied, non, je sais pas comment. Ouais. C'est pas une expression comme ça.
Je comprends qu'il y a veut nous pointer du doigt la toxicité masculine, mais là, c'est. C'est vraiment appuyé à fond dessus, à quoi qu'il y a des femmes quand même dans la famille, un peu de dégénérées entre guillemets. Ça m'a rappelé par moments une séquence dans Massacre à la tronçonneuse, le premier, lorsqu'on voit toute la famille réunie.
Ah bah oui, d'accord, oui, effectivement, je. Ouais.
Donc ça, j'ai bien aimé, mais je trouve que. Moi, je préfère le premier Evil Dead que j'ai revu. C'est gore, c'est fun, c'est décomplexé. Tandis que là, ça veut faire passer un message, mais c'est trop à la louche. C'est bien fait, et je me sens pas en plus vraiment attaché
au personnage.
Tellement ils sont caricaturaux que du coup, on les voit mourir. Même des fois, on se demande comment ils font pour supporter autant de violence.
Ouais, c'est vrai.
Alors oui, il y a le running gag qu'on a bien aimé, toi, moi et Romuald avec la grand-mère.
Ouais,
alors on rappelle des séquences.
C'est un peu décalé par rapport au reste du film. Bon, moi j'ai trouvé que l'humour aussi, c'est un peu une marque de fabrique maintenant de toute la saga Evil Dead. Et donc là, le cahier des charges était respecté. Après, bon bah l'humour, ça passe ou ça casse. Hein. Il y en a qui peuvent trouver ça complètement nul, mais bon, c'est pas subtil, c'est sûr.
C'est pas subtil et. Je trouve que par rapport à Vermine, que j'ai adoré du réalisateur, son premier film, avec les araignées, il y a des scènes vraiment on se sent vraiment immergé. Tandis que là, bah, il s'est américanisé parce que je trouve pas vraiment la patte, la French touch. Et me dis pas, Romain, que c'est parce qu'on entend même pas, c'est Jacques Brel, où il y a aussi Alain Barrière.
Aznavour, je crois, non ?
Barrière.
Ouais, peut-être, ouais.
Bon, la chanson des vieux amants. Oui, on entend Alain Chabat quand même. Alors ça, c'est une info j'ai réussi à dégoter grâce à Romuald. Parce qu'il y a un très très bon article sur le film dans Mad Movies.
C'est bon.
Et Alain Chabat, qui est fan d'Evil Dead, eh bien, on l'entend en français avec
au l'héroïne téléphone.
Qui est française au téléphone. Et ça, c'est marrant.
Ok. Moi, j'ai trouvé que, bon, sinon, au niveau gore et violence, là aussi, le cahier des charges était respecté. C'est vraiment très, très méchant. Hein. Alors, effectivement, je pense que le réalisateur a dû s'américaniser, peut-être, même si je trouve qu'il y a une patte de... Je sais pas comment on avait appelé cette vague de films d'horreur français au début des années 2000, avec Haute Tension d'Alexandre Aja, Martyr de Pascal Laugier, qui avait un peu secoué toute la planète film d'horreur et que du coup eux ça leur avait ouvert les portes aussi du cinéma de genre à Hollywood peut-être. Et il y a quand même aussi une marque de fabrique aussi de Sam Raimi et d'Evil Dead, c'est cette caméra un peu folle qui tourne, qui monte, qui descend et tout. Et donc là il y a quand même des scènes, enfin il y a des plans qui sont assez impressionnants.
Ouais, la maison, elle est bien filmée.
Ah ouais, c'est vrai que c'est aussi un huis clos, donc bon, forcément.
Ah, c'est plus grand que la cabane du premier, ça c'est sûr.
Ouais, c'est vrai. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il y a un truc qui nous a beaucoup surpris à la fin. Il y a deux séquences post-génériques, dont une qui n'a rien à voir avec le film.
Qui se passe dans le fameux crématorium.
Qui reprend des personnages donc du 6 et du 5. Et apparemment, c'est quelque chose qui a été imposé par la production au réalisateur français. Il n'a pas trop compris d'où ça venait, pourquoi ni comment. Ouais. Parce qu'il y a déjà un 7 qui est en route, en fait, là, qui sortira peut-être même l'année prochaine. Donc, les producteurs... Alors, il y a toujours Sam Raimi et puis aussi...
Bruce Campbell.
Voilà, Bruce Campbell qui est toujours dans la... toujours sa petite mainmise sur tout ça. D'ailleurs, le lore est respecté, mais bon, après, c'est un peu toujours la même histoire. Hein. On tombe sur un livre maudit, voilà.
Le Necronomicon.
Ouais, comme d'habitude.
Si on prononce les formules. Alors, attends, Romain, moi, j'ai écouté aussi des critiques qui disaient que le film aurait été censuré et qu'on aurait une version peut-être plus hard que celle qu'on a au cinéma, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est gore, mais pas, si tu veux, gore autant qu'on l'aurait souhaité.
Moi, j'ai trouvé ça quand même très, très, très violent.
Après, moi, j'attends de voir s'il y a une version, la version complète et pas censurée.
On va dire les personnages principaux, on prenne déjà quand même pas mal. Moi, je trouvais que c'était à la limite du torture porn. Ouais. Bon, le film doit être encore en salle, hein, si vous ne l'avez pas vu.
Ouais, c'est un bon divertissement, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'histoire pour vraiment m'accrocher plus que ça.
Ouais, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus d'histoire, ni plus ni moins que dans les autres. Donc, à part peut-être dans le troisième, qui nous emmenait au Moyen-Âge et tout.
Ouais,
là, il y avait beaucoup plus de lore, de choses comme ça. Ouais. Et ben, du coup, on va parler des maîtres de l'univers maintenant.
Oui, donc, là, je l'ai particulièrement aimé. Et on va en parler avec mon ami Aura, qui est un fan de Musclor.
Et donc, on s'écoute un extrait de la BO aussi. Et donc, c'est The Darkness. Hein. Un peu les Queen modernes. Qui ont un morceau.
Il y a Brian May qui a participé d'ailleurs de Queen.
Ouais. À la bande originale du film.
À Eternia, ouais.
C'est parti! Bah oui, il est là. Salut, Aura.
Eh oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Seb. Comment ça va ?
Ça va super.
Très bien. Ça va bien depuis les frissons de la Coupe du Monde de Suisse. On t'avait eu involontairement au téléphone, mais ça nous avait bien fait rire pour la dernière. Et là, on te retrouve pour la première. de la nouvelle
voilà,
saison.
Voilà, bah ça va toujours, ça faisait de l'entraînement.
C'est
comme
ça.
Comme les fils, voilà.
Eh bien, écoute, je suis ravi de t'avoir parce que tu es un fan avéré de Musclore et tu as eu la chance de le voir en salle en Suisse, tandis que moi, à la différence de Romain, je me suis rendu en Belgique.
Mais il n'y a qu'en France que ça passe pas au cinéma, si
voilà.
Je comprends bien.
Et il va t'expliquer pourquoi. Et moi, je l'ai vu à Bruxelles et j'aimerais justement que tu nous dises un peu plus... comment ce film donc, est devenu le carton de l'été sur Amazon Prime. Et aussi ton regard sur ces maîtres de l'univers de 2026, qui est vraiment un film vachement bien et qui colle pour moi parfaitement au dessin animé Musclore des années 80.
Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un film qui a vécu deux vies. Elle a un petit peu deux peaux. C'est les maîtres de l'univers, Master of Universe, de Travis Knight. C'est Travis Knight qui l'a édité, on va dire. Au départ, c'était le naufrage annoncé, sorti en juin dernier. Le film a connu un démarrage difficile au box-office mondial. Ils avaient fait environ 113 millions de dollars. Ce chiffre, c'est au 16 juillet 2026. Et puis en fait, le budget était colossal pour créer le film. C'était 170 millions, alors 170 pour les amis français, à 200 millions. Voilà. Donc pour beaucoup, c'était un bide industriel. Alors surtout en France, où le film n'est jamais sorti en salle. En fait, pourquoi ? Parce que ils croyaient un petit peu au bide et ils ont dit bon, ça va sortir sur Amazon Prime. Donc, dont un mois et demi. Donc, on va directement le mettre sur les petits écrans. Voilà.
Les gens n'iraient pas parce qu'en fait, ils pensaient que les gens n'iraient pas, sachant que le film genre sortait deux mois après en streaming.
Exactement. Voilà. C'est un petit peu la raison qui a été mise dans la presse. Après, on ne saura jamais la vérité. Ça va rester dans leur château. Il s'agit d'une adaptation cinématographique de la franchise des jeux Mattel. Et c'est la seconde adaptation prise de vue parce que en 1987, il y avait déjà eu un film He-Man. Donc, un petit peu, voilà un petit peu ce qui s'est passé quand ce film était au cinéma. Par contre, c'est là que c'est un petit peu un tournant incroyable, alors qu'on avait tous enterré, les maîtres de l'univers a trouvé son salut sur Amazon Prime Video. Donc, dès sa mise en ligne, le 22 juillet, le film a littéralement explosé les compteurs. Il s'est classé numéro 1, alors écoutez bien, dans 47 pays sur 52, sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, aujourd'hui, je suis allé voir, en tout cas, sur Amazon Prime Suisse, il est encore actuellement quatrième dans le top 10. Ça veut dire que les gens continuent à le voir. Ok, il a baissé, il a perdu 3 places. Mais pour rester dans le top 10, c'est que quand même, les gens ils sont toujours un petit peu derrière. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Je pense déjà à la vision artistique. Elle est fortement portée par le réalisateur Travis Knight. C'est un film visuellement vraiment, je vous le dis vraiment avec le cœur, époustouflant. Apporté par un casting solide. Qui fait He-Man ? Donc He-Man, c'est Musclore. C'est l'acteur Nicolas Galitzine. Alors excusez-moi pour la prononciation. Donc il va interpréter le prince Adam. Et puis il y aura Camila Mendes en Tila et Jared Leto qui sera Skeletor. Et malgré les rumeurs sur cet acteur, etc. Pour moi en tout cas, ça a été un excellent Skeletor et plus que parfait. Il colle superbement bien à la série animée, moi je trouve. Et puis il faut pas oublier l'âme sonore du projet. Hein. C'est la bande originale signée par le talentueux Daniel Pemberton avec la participation exceptionnelle de la légende du rock. Attention, c'est Brian May, le guitariste de Queen. Donc voilà. Au final, le public l'a accueilli et il a répondu présent. Donc c'est assez extraordinaire, je trouve. C'est pas souvent qu'un film a une deuxième chance, on va dire.
Et y a-t-il des scènes marquantes du film dont tu souhaites un petit peu nous en dire à la radio sans divulgâcher?
Moi, je trouve que il y a quatre combats qui sont assez centraux. Et je trouve que l'avant-dernier est particulièrement bien réussi dans le château de Skeletor. Voilà, ça, c'est une scène que j'aime bien particulièrement.
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, que je suis en train de revoir cette fois en VF, c'est vrai qu'à Bruxelles, je l'ai vu en VO. Et là, je l'apprécie vraiment mieux. Je trouve que le doublage, il est bon.
Hein. Ouais, c'est pas si souvent.
Mais on sent, en fait, vraiment un hommage, vraiment, ah, comme oui. Gianni nous le dit, au dessin animé. Et un vrai bel hommage. Moi, je me souviens, Romain et auditeur du 101.5, que souvent, ces dessins animés des années 80, les épisodes, ça dure 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes.
Ouais.
Et là, reprend le film Romain, rien que la première heure, on peut la diviser en trois tranches de 20 minutes. La première tranche de 20 minutes, c'est la jeunesse d'Adam. On le voit tout gosse. Le père Andor, c'est le roi d'Eternos. Il est dur avec son fils, parce que son fils, il est très sensible. On pourrait dire que c'est un poisson, on sent qu'il a un côté féminin en lui. Et lorsqu'il s'entraîne à l'épée avec Duncan, le maître d'armes, il a du mal à vraiment à faire le guerrier. Il danse et tout. Il va se prendre une leçon. Son père un peu l'humilie par rapport aux autres vraiment qui se battent, filles et garçons. Voilà, c'est pas comme ça qu'il veut voir son fils. Donc on voit qu'Adam déjà, par rapport à son père, il a un peu mal. Il y a toute la jeunesse, on le voit enfant, ça c'est très intéressant. Je ne sais pas si on le voit dans le dessin animé, ça, Aura.
Non.
Voilà. Et on voit aussi le petit tigre au début.
Hein?
Kringer, qui lui parle, ça m'a fait rire. Parce qu'il dit oui, en fait, il joue un peu. Alors, c'est marrant parce que souvent, il est peureux, et là, il fait un peu le fort, le petit tigre, par rapport à l'enfant. Après, ça va s'inverser. Et donc, toute la première partie, les 20 premières minutes, c'est tout jeune Adam. Après, il y a Skeletor qui arrive, parce qu'il faut rappeler quand même le synopsis très vite. C'est en fait, il y a l'épée de pouvoir, et l'épée de pouvoir, Skeletor, il la veut à tout prix. Il est obsédé par cette épée de pouvoir que possède Randor, et cette épée de pouvoir va être projetée sur notre terre avec le petit Adam. Mais
exactement.
Adam, entraîné par des courants dimensionnels qui l'entraînent sur terre, il va pas pouvoir tenir très longtemps la garde de l'épée, il va perdre son épée. En fait, et ça c'est très bien parce qu'on l'a dans le dessin animé, les copains, la mère d'Adam, elle vient de la terre.
Exactement.
Et dans le dessin animé, c'est avéré, il y a à un moment donné un épisode qui nous dit bien que la mère, elle est terrienne. Après,
D'ailleurs, c'est Artie Wilkinson qui joue le jeune Adam.
Oui, il le joue très bien d'ailleurs.
Mm-hmm.
Alors, les 20 premières minutes, déjà, on est entraîné déjà sur le monde d'Eternia, qu'on voit beaucoup plus que dans le film de 1987. Je trouvais ça assez pauvre,
La
vision d'Eternia.
Mais pour une question de budget, je pense.
Voilà. Voilà, on a un plus gros budget. Oui. Par contre, on a 20 minutes sur Terre. Après, ça va dire les 20 premières minutes, les 20 autres minutes, jusqu'à la 40e environ. Ça se passe sur Terre. Là, on voit Adam, jeune homme, qui travaille dans une boîte en RH. Il reçoit des gens, il parle bien et tout. Mais il veut retrouver son épée. Il va y arriver à un moment donné, l'épée de pouvoir. Sauf qu'elle va envoyer un signal. Et puis, ça va attirer le monstre, une des créatures de Skeletor.
Best, ouais.
Voilà, mais en fait, il va pouvoir s'en réchapper avec Tila, qui revient, son amie en fait d'enfance, la fille du maître d'armes, Duncan, et qui va l'entraîner dans son vaisseau pour revenir sur Eternia. Alors, mais ces 20 minutes sur Terre, je les ai trouvées géniales. Mais géniales. C'est bourré de références, mais pas qu'au dessin animé, Musclor, Romain. On a une référence, les copains, à Star Trek 4.
Bon.
Star Trek 4, souviens-toi Romain, superbe film de la franchise Star Trek, Aura, si tu l'as vu. On voit nos amis Kirk, Spock et compagnie, en fait, débarquer, je pense, à New York ou dans une ville américaine.
Ah oui, retour sur Terre.
Et à un moment donné, on a une séquence où on voit le vaisseau de Tila qui apparaît à la vue des citadins d'Oklahoma City. parce que c'est là où se déroule l'action sur Terre pour le jeune Adam, enfin, qui est un beau jeune homme dans la vingtaine, puisque ça se déroule 15 ans après les événements, on le voit projeté dans le puits dimensionnel sur Eternia. Enfin bref, et on voit le vaisseau, un peu comme dans Star Trek 4, où il s'aperçoit, bah, c'est quoi ce vaisseau ?
Ouais, c'est sûr.
Exactement. Ça, c'est une référence.
Et puis, il y a puis la scène, elle est incroyable parce que Adam se tourne vers les gens qui sont là, qui croient pas leurs yeux. C'est quoi ce truc ? Cet ongien, il vient d'où ? Ce sont des extraterrestres. Et lui, il dit à tout le monde, vous voyez ? Maintenant, vous me croyez ? Parce qu'en fait, lui, il faisait que de parler d'Eternia dans ses relations.
Dans ses dettes.
Et personne le croyait. Tout le monde le prenait pour un fou. Et un geek, un joueur, quelqu'un qui cherchait un objet qui n'existait pas. Et là, il se retourne vers les gens qui ne connaissent pas d'ailleurs. Et il dit, vous voyez, vous me croyez maintenant. J'ai trouvé ça absolument génial.
Et on a même une référence à Amazon, placement de produits. On voit un camion Amazon Prime passer à toute vitesse devant Adam et Tila. Bah, comme quand ils font leur livraison. Et ça m'a fait sourire. C'est un peu le placement de produits. On a aussi un hommage dans tout le film, très appuyé, je trouve très bien amené plutôt, au film de 1987. Moi, je l'aime beaucoup. On en avait parlé avec Jean-Luc.
Ouais, bah, c'est un bon film. Un youtubeur...
Mortal G.
Voilà.
On l'aime bien, ce film. Et on a Karg, notre ami Karg, le chasseur de primes. Aura, souviens-toi, dans le film de 87, c'est un personnage qui a été créé exprès pour le film. Il a eu son jouet. Et on le retrouve, exactement. Romain, vrai de vrai, on le voit deux fois, plusieurs fois d'ailleurs, avec sa longue chevelure blanche, il a une sorte de crochet. On le voit dans le film de 87 et on le revoit en 2026 aux côtés de Skeletor.
Et alors, il y a aussi un caméo de Dolph Lundgren. Est-ce que vous l'avez vu ?
Alors, peux-tu nous en dire un peu plus, Aura ? Parce que moi, c'est une des séquences qui m'a vraiment très ému.
Alors, en fait, Adam... est un petit peu perdu sur la Terre. Hein. Il a des problèmes relationnels avec les gens. Et il est dans une salle de fitness. Et là, débarque ce caméo. Donc, c'était l'acteur qui jouait Musclor en 1987, qui lui donne des conseils, dont un proverbe. Je ne sais pas si tu voulais...
Je l'ai repris intégralement. Je vais le dire à la radio. C'est un petit spoil. Alors, c'est Duff à la reine. Il est dans sa salle de sport. Il lui dit... Il faut que tu cultives l'intérieur, pas que l'extérieur. L'extérieur est une façade, mais si tu passes derrière cette façade, alors rien ne t'arrêtera, fiston.
Et ça, je trouve extraordinaire de dire ça à Musclor. Parce que c'est que du muscle. Et en fait, ce qui est génial dans cette version, c'est qu'au final, Musclor, quand il sera sur Eternia, il se transforme, bien évidemment. Il appelle le pouvoir.
On a deux transformations d'ailleurs dans le film.
Voilà, exactement. Et c'est pas que du muscle. Il va essayer de jouer avec sa façon de faire RH avec les méchants. Et bien sûr ses alliés. Ça ne marche pas forcément, mais il va essayer de parler. Et il va dire à Skeletor, mais pourquoi t'es méchant ? avant de taper, il va essayer de le raisonner. Et puis, par contre, il y a un juste milieu, c'est que quand Musclor décide de combattre, bah là, c'est les muscles, ça fait mal.
Et puis, donc, on a encore dans les 20 dernières minutes de la première heure, donc on les voit revenir sur Eternia. Il y a une base rebelle, un peu comme dans Star Wars. Et à un moment donné, la base rebelle va être attaquée par les méchants, Skeletor. On a pas mal quand même de belles créatures... qu'on connaît des années 80, enfin les plus emblématiques, le monstre, la bête, qui est très bien vraiment faite. On dirait pas du vieux CGI tout pourrave, voilà. Et on a aussi Démonia, naturellement, on a Karg, je l'ai cité. Je pense qu'on voit aussi Bled très rapidement d'ailleurs. Et Dantos, alors Dantos, Aura, qu'est-ce qu'il est génial ! Vraiment comme méchant avec son bras qui se transforme en n'importe quelle arme. Et la première heure va se conclure sur l'une des premières transformations d'Adam en Musclor par le pouvoir du crâne ancestral. Alors moi je trouve c'est vraiment un gros plan, mais c'est pour mieux un peu nous mettre en appétit par rapport à la deuxième transformation qui va en mettre encore plus plein la vue. Et je veux pas vous en dire plus, hein, je voulais vraiment vous dire que cette première heure déjà de Musclor, elle passe à une vitesse, on rentre dedans, il y a énormément de références, tant au dessin animé Musclor qu'au film de 87, également à des références même à Conan, avec le fameux thorax qu'on voit dans une boutique geek.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a un thorax qui tient l'épée de pouvoir, et t'as Musclor qui « Ah, je veux mon épée, je veux mon épée !» Mais c'est
incroyable.
Un film qui va plaire tant aux fans de Musclor, et qui aurait dû sortir en France, dans les salles, et qui va plaire également à des personnes qui ne connaissent pas, jusqu'à ce que les producteurs se disent « Mais écoutez, le film, il marche tellement bien, c'est ce que tu nous as dit sur petit écran, pourquoi ne pas en faire une suite ?» Parce que la deuxième heure est aussi de bonne aloi, l'histoire elle est simple, ok, tout tourne autour de l'épée de pouvoir, mais les prestations des acteurs, Duncan, à un moment donné c'est un poivreau, parce qu'il a raté son combat contre Dantos, il se sent responsable de l'échec de la prise d'Eternos, c'est vraiment génial, c'est pas des personnages manichéens, ils ont des émotions, c'est pas comme les jouets, vraiment, les acteurs les habitent, ils leur donnent une âme en plus. Et moi, je me suis dit, waouh, je veux en voir encore plus. Je veux encore voir plus de méchants que j'ai pas vu là. Il y en a tellement de jouets, même parmi les gentils. Mais c'est, pour moi, c'est un spectacle total, les amis. Foncez voir le film. Vous allez passer 2 heures de distraction pure. C'est du plaisir à l'état pur. Et on est content. Et on a envie même de le revoir par la suite. Tellement ça fait du bien de rire et de passer un bon moment aux côtés de Musclor. Il y a de l'humour. Et c'est ce qui fait du bien aussi. C'est pas un humour pipi caca. C'est un peu l'humour de Musclor, mais pas un humour abétifiant. Voilà. Si tu peux nous en dire vite fait un petit mot, Aura, pour conclure.
Oui, alors l'humour, c'est pas l'humour comme on a l'habitude d'avoir dans les derniers films de super-héros. Mais il faut pas oublier d'aller au cinéma, pas pour être des cinéastes, pas pour trouver un chef-d'œuvre, mais pour aller au cinéma, pour rêver, y aller même avec ce qui nous reste de nos 8 ans, et regarder ce spectacle, et arrêter de dire, ah ben voilà, ça va pas. Laissez-vous porter par l'histoire, rêver, parce que aujourd'hui il faut lire, aujourd'hui il faut aussi rêver, et pas toujours critiquer. Et ce film, je pense qu'ils ont réussi parce que à l'extérieur, les méchants, on dirait les jouets. Et comme a dit Sébastien, à l'intérieur, il y a de la vie. Et ils ont vraiment compris qui est qui. Voilà.
Bah écoute, on va te retrouver tout de suite après pour parler
de
propre univers.
Ouais, et puis on va t'écouter tout de suite parce que c'est le thème de Laura Rénin.
Que j'adore, avec des guitares aussi.
Hein. Ouais, tu vas nous parler de ça dans quelques minutes dans Imaginaire sur le 101.5.
À tout de suite.
Bye bye.
Est-ce que c'était Brian May qu'on avait à la guitare là sur ce morceau?
Faut demander à Aura si elle joue avec.
Non. Bah, comme vous le savez, j'avais déjà expliqué la dernière fois, je suis à la base un musicien, je gratte un peu et puis je fais du piano. Et puis à la base, je suis DJ. Donc je vous avais expliqué que avec un logiciel de studio, on peut aussi créer des samples. Et là, comme vous voyez, la mélodie centrale est toujours la même. Donc une fois qu'on a créé le samples, bah, il suffit de le mettre en boucle et ça crée cette mélodie qui est assez incroyable. Voilà. Donc voilà.
Et donc on précise à nos auditeurs du 101.5 FM que c'est issu de l'album Aura Rena, un de tes albums, donc issu de l'univers Aura. Mais là, spécifiquement, Aura Rena, cet album, les amis, que vous allez retrouver sur différentes plateformes, Deezer, Spotify, jusqu'à sur YouTube, eh bien,
YouTube
c'est tiré,
Music, ouais.
C'est tiré du deuxième jeu de cartes, donc, qu'a créé notre ami Aura. Et là, j'aimerais que tu nous en parles, ainsi que du premier, rapidement, pour resituer pourquoi ces jeux de cartes, jusqu'à donc les distribuer, les faire jouer dans les salons.
Alors en fait, comme vous savez, au début j'ai fait des livres-jeux, il y en a quatre.
C'est ça.
Et puis on s'est dit, il y a peut-être des gens qui aiment pas lire, et notre univers a un lore assez large. Donc pourquoi pas faire quelque chose qui pourrait aussi plaire aux geeks, aux joueurs, qui est pas forcément lié au livre. Ça veut dire que les gens pourraient avoir les jeux de cartes sans connaître les livres. Ça se joue indifféremment l'un de l'autre. On peut très bien jouer aux livres ou jouer aux cartes sans connaître les deux matières. Mais c'est clair que si quelqu'un a lu les livres, lorsqu'il va jouer avec les cartes, il va dire « Ah ouais, ça c'est ce personnage-là, je comprends son pouvoir ». Ça reflète le lore qui est expliqué dans le livre. Donc voilà, c'était un petit peu pour se diversifier et partager notre univers avec des gens autres que des lecteurs.
D'accord, un univers de super-héros contre des super-vilains.
Exactement. Donc, si on veut parler de Aura Rena, c'est un jeu qui est sorti le 30 mai. C'est de 2 à 8 joueurs et c'est dès 8 ans. Donc, bien évidemment, j'ai des gens dans ma team qui m'ont aidé pour faire ce jeu. Donc, moi, je l'ai créé et je l'ai produit. J'ai Laurent qui l'a élaboré et coproduit. Et puis, notre super dessinateur Luciano a dessiné les illustrations. Et puis, Emma a pensé et testé ce jeu. Donc, c'est un jeu assez spécial. Ça, quand on le regarde comme ça, ça ressemble un petit peu au Uno parce qu'il y a plein de couleurs, etc. Mais c'est complètement l'opposé de Uno parce que, figurez-vous, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cartes en main et éliminer toutes les cartes de ses adversaires. Et il faut imaginer que vous êtes dans une immense arène romaine et que chaque carte peut éliminer vos adversaires. Comment on joue, c'est assez simple. On a tous 5 cartes en main. On pioche une carte. On en choisit une en main. On lit un des effets, parce que comme j'ai voulu mettre l'univers d'Aura sur les cartes, certaines cartes ont plusieurs effets. Ça veut dire que la jouabilité du jeu est énorme, puisque d'une partie à l'autre, on pourrait avoir la même carte, mais pas jouer le même effet. Donc, ça change un petit peu la donne. Et une fois qu'on a crié l'effet aux autres joueurs, les joueurs vont défausser leurs cartes, jouer leurs cartes. On va faire tous les effets. Et puis, toutes les cartes qui sont sur la table vont dans la défausse. Voilà. Et vous savez jouer à Aura Rena. C'est pas plus compliqué que ça, car tout est écrit sur les cartes qu'il faut faire.
Et c'est quoi la différence principale, s'il te plaît, entre ce deuxième jeu de cartes et le premier jeu de cartes?
Alors, le premier jeu de cartes s'appelle le grimoire dans le noir. Et le slogan, c'est « Fermez les yeux, ouvrez votre esprit ». C'est un jeu qui se joue avec les yeux fermés. Il y a trois phases. Et puis, on distribue les cartes. C'est un espèce de loup-garou déguisé à ma façon. Les vilains sont les loups. il y a les héros qui ne sont pas transformés, qui sont en mode, on va dire, en mode civil. Bah, eux, c'est les civils, justement. Et puis, il y a les mêmes héros qui sont transformés. Ils ont une lettre H pour héros. Ben, eux, ils ont des pouvoirs. Et en fait, c'est un combat sur la Terre. Et chacun doit découvrir son identité et essayer d'attraper les méchants. Et puis, les méchants doivent attraper tous les civils plus au moins un héros. Voilà.
D'accord. Et ces jeux, le grimoire dans le noir, au Arena, sont-ils commandables de France?
Alors, pour l'instant, ils sont sur mon site internet. Il faudrait essayer de voir si depuis la France, ça fonctionne. Sincèrement, je ne sais pas. Ouais, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, si vous allez sur www.auraventure.ch, il y a le Aura Shop ou une section catégorie jeu de cartes, et là en fait vous cliquez sur je commande et là vous verrez vous pourrez faire ça avec le logiciel Stripe, je crois, s'appelle, qui est sécurisé. Il faudrait essayer. Par contre, sinon c'est pendant mes dédicaces, mes événements. D'ailleurs, en septembre, en tout cas, si vous voulez faire une visite en Suisse, tous les week-ends de septembre, nous avons des événements. Donc, le 5 et 6 septembre, nous sommes au Festival du jeu à la Tour de Paix. Le 19, 20 et 21, et le week-end d'avant, on ne rappelle plus les dates, nous sommes à la foire du livre qui est à Romainmeautier en Suisse. Et puis le 26 septembre, je serai dans la librairie Payot de Yverdon en dédicace. Et en fait, les jeux sont en initiation. Ça veut dire que si vous venez, vous pouvez vous asseoir autour d'une table et on joue avec vous, on vous explique.
Donc en fait, tu fais les festivals de jeux et les festivals de livres, puis dans les tu présentes le jeu dans dans les deux types.
Bah grâce au jeu maintenant oui.
Il faut venir
maintenant oui.
Il faut venir soit au FIGE, le Festival International des Jeux de Cannes, ou alors à Octogone qui est aussi devenu Viplace to be Romain pour tout ce qui est jeux de rôle et
toujours
jeux
à Lyon,
Octogone à Lyon au mois de mai, et le FIGE.
Ah oui, c'est au mois de février. Octogone, je dis des bêtises.
Donc pourquoi pas à l'occasion te revoir en France à Octogone ou au FIGE.
Et peux-tu FIGE.
Et il y a le FLIP aussi à Parthenay qui est plus près de chez nous.
Ouais, c'est vrai.
Au mois de juillet.
Et peux-tu nous rapidement, par exemple, nous décrire une carte, celle de aller au pif de Mika, s'il te plaît?
Oui, alors, Mika, il faut savoir que c'est l'unique humain, on va dire un petit peu protagoniste humain, donc il n'a pas trop de pouvoir, donc lui, en fait, il a un effet, parce qu'en fait, il y a des cartes qui ont des effets sur la pioche, il y a des cartes qui ont des effets sur la défausse, et il y a des cartes qui ont des effets sur un adversaire ciblé et des cartes qui ont des effets sur tous les adversaires. Et dans ce cas-là, Mika, lui, il a un effet sur la pioche. Donc, c'est écrit « Pioche 4 cartes, joue immédiatement une carte H parmi elles. » Les cartes H, c'est les héros. Donc, sur les cartes en haut à droite, il y a un visuel avec... Voilà. Donc, défausse les trois autres et puis... Si tu joues une carte H qui s'appelle China, bah tu peux jouer un tour supplémentaire. Parce que ce personnage a une relation assez spéciale avec China. Ce n'est pas une relation d'amour, mais c'est une relation héroïque, on va dire. Voilà, on en parlera peut-être, mais voilà pourquoi il y a une relation avec cette carte-là.
Et ce personnage, il apparaît dans un des actes du volume 3. Et là, on va passer une nouvelle musique que j'aime beaucoup, un peu électronique, parce que t'es DJ, t'aimes bien, c'est la musique dansante.
Ouais, c'est très varié, ouais.
Ton univers, on reste dans ton univers après, mais dans Aura, le troisième tome.
Ok, on s'écoute ça tout de suite.
À toute.
Dans l'imaginaire sur Radio G. Imaginaire sur le 101.5
dans Laura Arena, Radio G.
Toujours avec
voilà, nous. Voilà. Oui, toujours là.
Alors, on va redémarrer tambour battant avec le troisième tome d'Aura qui est sorti en 2024. Moi, je l'aime particulièrement parce que je vois beaucoup d'évolutions par rapport aux deux premiers tomes. Et là, je vais démarrer par parler du premier acte qui ouvre ce troisième tome, qui est en fait l'acte 11. Dans le premier, c'est de l'acte 1 à 5. Dans le deuxième, de l'acte 6 à 10. Et en fait, chaque premier acte qui ouvre un tome d'Aura, c'est comme un tutoriel. Et là, je le trouve particulièrement réussi. Gianni, il se singularise même par rapport au tuto des deux premiers Aura. Peux-tu nous dire en quoi tu es particulièrement content de ce tutoriel d'Aura 3?
En fait, on dit que toutes les routes mènent à Rome. Bah là, en l'occurrence, à New York. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de game over. Il y a plusieurs scénarios possibles pour arriver justement à l'acte suivant, donc l'acte 12. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai installé un compte à rebours, mais en fait, le tuto, on le fait quand même à notre rythme et on découvre plein de choses qui ne nous fait pas forcément aller où on doit aller, mais on est content d'y être. Voilà.
Et on apprend.
Bah, de ça.
Et on apprend naturellement, bah, bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la littérature arborescente, Romain, c'est possible, à comment faire les choix. Bah oui. C'est bien expliqué avec les icônes. C'est très propre d'ailleurs, avec aussi les couleurs. Et également, on a des scènes de combat. Et alors moi, j'adore, parce qu'à la différence des deux premiers tomes, bam, là on n'a plus seulement trois options de combat. On a aussi une nouvelle option, l'option se défendre ou prendre la fuite. En quoi cette nouvelle option que tu rajoutes aux trois qu'on connaissait déjà dans les deux premiers tomes, eh bien, qu'est-ce que ça rajoute en plus comme frisson pour le joukineur ?
En fait, c'est plus logique pour le joueur, parce qu'il peut choisir, comme dans la vie, de fuir, ou plutôt de jouer sur la défensive. Et surtout maintenant que ça va devenir une vraie bataille, et c'est plus des petits combats, donc ici c'est nous ou eux. Donc on a le droit de fuir aussi, ou de se protéger. Et ça, c'est une option que je trouve qui était intéressante.
Parce que là, on lutte quand même contre l'Empire de Khazar, et notamment contre des généraux, Drazel, les Sif. Mais lui, il reste quand même un peu en retrait en Russie, il est puni par le grand chef Khazar. Et on a aussi les capitaines, qui sont assez sympathiques. Et on a aussi une carte détaillée de New York. C'est quand même une ville que tu as adoré visiter. Mais qu'est-ce que tu as voulu vraiment avec cette carte générale illustrée des principaux quartiers de New York? Qu'est-ce que cette carte apporte dans les combats qui font rage entre la team Aura et la team Khazar?
En fait, on voit le plan de la carte. Puis à ce moment-là, on a le choix du personnage qu'on veut incarner. Et je trouve que c'était important de visualiser les différents trames et les liens entre les combats. Par exemple, je veux jouer avec lui dans cette zone de la carte. C'est plus convivial, ça me donne cette impression d'être dans New York, de se promener avec une carte et de dire, bah voilà, moi je veux aller voir ce qui se passe là-bas, il y a du bruit, donc je veux aller combattre là-bas. Et à fur et à mesure qu'on découvre les chapitres, on découvre aussi les personnages qui y sont. Parce qu'au début, on les voit pas. Ils apparaissent à fur et à mesure de l'aventure.
Oui, et on a même des scènes en fait qu'on peut voir sous deux angles différents, du côté du méchant et du côté du gentil, la même scène en fait. On voit à un moment donné, sans en dire plus, un des généraux se faire, pas braquer, mais se faire pointer des pistolets sur la tempe. Il le sent, et on voit aussi la personne, lequel de héros qui tend les deux pistolets. On peut avoir ces deux scènes qui se jouent dans différentes sections d'actes. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre casse-tête ludique. Il y a un moment donné, on a un tableau des relations de tes héros, de tes antagonistes à débloquer. Et qu'est-ce que tu as voulu justement, par ce casse-tête ludique, inviter tes lecteurs
En fait, lorsqu'on écrit un livre, c'est important que nos personnages ont un passé, une histoire, et de comprendre les relations, parce que c'est comme dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un et tout d'un coup, 10 ans après, on le revoit et on a une relation avec cette personne, un lien, une histoire qui peut changer le présent. Et je voulais faire comprendre aux gens combien c'est important d'avoir des liens. Et puis surtout de les garder dans un monde où aujourd'hui on est plus dans le virtuel que dans le contact. Et voilà, je voulais un petit peu montrer que dans Aura on fait beaucoup de flashbacks pour les personnages, que ça soit les vilains ou les gentils. Et je trouvais important de les rendre plus amicaux, on va dire. Parce que quand on joue un méchant, on va se dire c'est un méchant, mais en fait non, il a une motivation, et peut-être que nous on ferait pire que lui si on avait cette motivation.
Alors là, c'est vraiment pour vous présenter des points généraux du troisième tome, parce que je vous invite, là on voulait davantage parler avec Romain du jeu de cartes, d'ailleurs Romain va conclure par une question encore sur le jeu de cartes, mais je rappelle à nos chers auditeurs du 101.5 FM que vous avez notre podcast du 18 mars 2025 qui reprend donc toutes les thématiques principales d'Aura, qui permet un peu de comprendre la matière ludique en général. Allez sur le podcast du 18 mars 2025 pour retrouver donc notre ami Gianni qui explique beaucoup plus en détail Aura, là cette fois la saga de livres sur la page imaginaire.
Oui, donc moi j'avais une question, oui, et je voulais savoir s'il y avait une vidéo du jeu où on pouvait, enfin une vidéo explicative hein, sur YouTube ou.
Alors, sur notre site internet, quand vous allez dans la catégorie jeu de cartes, il y a une vidéo pour le grimoire dans le noir.
Ouais, j'ai
vu pour, ça. Aurare, voilà. Mais pour Aurare Rena, il n'y en a pas encore une officielle. Mais il y a des vidéos que j'ai mis sur mon Instagram.
Ok.
Qui est, voilà, @auraventure.ch. Et là, on peut voir des vidéos ou des photos où on y joue, en fait.
Ok, super.
Eh ben écoute, c'était un régal de t'avoir ce soir, tant pour parler de Musclore que des jeux de cartes, et également un tout petit peu des bouquins, mais on peut retrouver la chose sur le podcast du 18 mars 2025. Salut Gianni.
Merci beaucoup, bye bye.
Eh ben merci Gianni, donc peut-être à bientôt dans un festival de livres ou alors un festival de jeux.
Au salon imaginaire.
Et on termine, Sébastien, avec ton choix musical, c'est Damiano David.
Voilà un album que j'adore, son album Funny Dreams ou Funny Fears.
On se retrouve dans deux semaines dans Imaginaire sur le 101.5. À la même heure, on parlera probablement de l'Odyssée. Le film et puis un peu plein d'autres choses sur la même thématique. Ouais. Salut.
Salut, salut.
I see it when I look into your eyes. You were just waiting to escape because I was just another sacrifice for your perfect little life. I guess there's just no space for me in your perfect life. So tell the lie. I listen to it every time. You say you're better for me, 'cause you're someone I know. A paradise, it never really satisfies.